Voici l'extrait du texte sur lequel nous allons ce matin particulièrement nous attarder. Donc, je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux gens intelligents et que tu les as révélées aux tout petits. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment comprendre cette action de grâce de Jésus ? D'abord, en notant qu'il s'agit effectivement d'une action de grâce, d'une louange à Dieu, et qu'il ne s'agit donc pas d'une assertion ou d'un commandement. Alors, il y a un texte parallèle dans l'évangile de Luc où nous trouvons la même louange avec les mêmes mots, mais située dans un contexte différent. Dans le passage parallèle de Luc, Jésus dit ça juste après avoir exulté, c'est-à-dire juste après avoir sauté de joie. Et sauté de joie sous l'effusion de l'Esprit. Alors, ces informations pourraient déjà nous apprendre deux choses. Une louange à Dieu, c'est certes une affirmation, mais c'est aussi un point de vue. Exemple. Dans une randonnée avec un ami, vous décidez de faire une pause et vous vous asseyez tous les deux sur un banc posé sur un promontoire aménagé. Et vous, tout à coup, vous vous adressez à Dieu en disant « Ô Seigneur, je te rends grâce de la beauté du paysage que je suis en train de contempler. » Et là, votre ami vous dit « Moi, je ne le trouve pas si terrible que ça, ce paysage. » Et là, vous lui répondez « Oh, mais ce n'est pas à toi que je m'adresse. » Cela dit, je ne vous conseille pas de vous exclamer ainsi, ça peut être gênant. En quelque sorte, ici, nous rentrerions dans la subjectivité de Jésus, dans l'intimité de son tête-à-tête avec son Dieu. « Oh, mais la sagesse et l'intelligence, c'est quand même important et utile, surtout par les temps qui courent. Tais-toi, ce n'est pas à toi que je parle. » Et le fait que la même louange se trouve dans un autre évangile juste après ce moment d'exultation de Jésus, unique dans le Nouveau Testament, ça abonde dans cette voix subjective, cette envie presque non maîtrisée de dire quelque chose d'important à dire sur le moment et dans ce tête-à-tête. Et ça nous permet d'imaginer que le sous-texte ici est que Jésus se considère lui-même comme un de ses tout-petits. En français, sur un mot grec qui peut être aussi traduit par naïf, et qui a été traduit par naïf dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, un naïf capable, entre autres, de sauter de joie, de s'exclamer sans prévenir, ou d'entrer dans une sorte de transe, comme le font parfois, et sans toute la vergogne acquise, comme le font parfois de très jeunes enfants. J'ai mes deux petites filles à la maison actuellement, et j'avoue être parfois témoin de phénomènes éphémères, certes, mais que certains qualifieraient de paranormaux. Je te loue, Seigneur, en gros, de me parler directement dans le cœur et de m'avoir dispensé de tout un blabla académique, voire initiatique, pour que je puisse arriver jusqu'à toi ou pour que tu puisses arriver jusqu'à moi. Donc voilà un premier point. La forme littéraire, le contexte de cette phrase en dit déjà long sur ce que d'aucuns prennent directement comme un commandement de Jésus qui serait à soupeser ou à étudier. Néanmoins, on va le soupeser et l'étudier. On va essayer de comprendre ce que Jésus dit ici sur les sages et sur les gens intelligents. Alors, Jésus serait-il populiste ? Serait-il flatteur des bas esprits ? Serait-il un anti-intellectualiste? Première option. Jésus ne critiquerait pas la sagesse et l'intelligence qui, on le sait, est très valorisée dans l'Écriture sainte Écriture dont il est lui-même nourri et dont il entend même en libérer la quintessence de cette écriture. Mais il critiquerait plutôt la pseudo-sagesse de ce qu'on appelle les sophistes ou la pseudo-intelligence. Ainsi, il rentrerait en droite ligne de conviction avec certains prophètes, comme par exemple Ésaïe, chapitre 5, 21, « Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et intelligents dans leur propre opinion. » Jésus suivrait aussi les avertissements de certains proverbes dans l'Ancien Testament, qui reprennent par exemple ce thème de l'aveuglement du sage. Proverbe 3, « Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Ça, c'est la première option. Mais seconde option, ce ne serait pas simplement la pseudo-sagesse ou la pseudo-intelligence qui serait ici, on va dire, recadrée, mais peut-être la sagesse et l'intelligence tout court, dans la mesure où Jésus ne serait pas d'accord avec une sagesse qu'on irait qualifier d'autonome. Proverbe, encore une fois, le proverbe du verset 10 du chapitre 9, pour vérifier les citations, ça peut être utile. Il paraît que les pasteurs protestants doivent faire ça pour permettre au public de vérifier tous ces dires. Voilà. Mais en même temps, comme vous n'avez pas de Bible parmi vous, ben, ça ne sert à rien. Alors ce proverbe dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » Et c'est très clair. Il ne s'agit pas ici d'une sagesse qui s'auto-alimente. D'abord, le respect ou la crainte de l'Éternel, et ensuite la sagesse. Alors, dans la mesure aussi où Jésus considérerait la sagesse intéressante, certes, mais penserait qu'elle serait périssable, comme tout le reste. Ésaïe, « C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse des sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. » Et on pourrait ajouter qu'il ne serait pas en désaccord, Jésus, avec un des amis de Job, quand celui-ci affirme, après une longue plaidoirie, qu'au fond, la sagesse, ultimement, ne sert à rien. Job, chapitre 37, verset 24, « C'est pourquoi les hommes doivent le craindre, Dieu. Ils ne portent pas les regards sur aucun sage. » Il ne porte les regards sur aucun sage. J'ai fait une fausse double négation. Donc, il ne porte les regards sur aucun sage. C'est aussi un peu ce que dira l'apôtre Paul quelques années après le ministère de Jésus, dans ses livres, quand il va, Paul, antagoniser la sagesse des hommes d'une part et la folie de la croix d'autre part. Et selon les protestants, on n'a jamais vu un effort de sagesse, ni aucun effort de quoi que ce soit, pour accéder au salut. Alors, Jésus serait-il populiste? Serait-il flatteur des bas esprits? Serait-il anti-intellectualiste? Bien sûr que non, ne serait-ce que par l'intelligence et par la sagesse de ses actions et de ses paroles en situation toujours subtile, qui, pour être correctement déchiffrés, doivent aussi nécessiter un minimum d'intelligence et de subtilité. À aucun moment, Jésus n'a joué sur la crédulité des foules. Au contraire, il avait plutôt l'art, Jésus, de prendre ses interlocuteurs à rebrousse-poil. Par exemple, quand il dit « Aimez vos ennemis ». Mais alors, pourquoi celui que certains s'obstinent à présenter uniquement comme un maître de sagesse, comme il y en a eu tant à cette époque, et comme il y en a encore tant aujourd'hui, finalement. En fait, ça se bouscule au portillon des réseaux sociaux, à tel point que certains, n'en pouvant plus, et pour s'en moquer, ont inventé un hashtag très ironique. Cet hashtag, c'est « Nous sachons ». J'aime bien. Pourquoi celui-ci, Jésus, critique-t-il la sagesse et l'intelligence dont il ne cesse pourtant de faire preuve face à la bêtise institutionnelle qu'il affronte régulièrement? Nous l'avons dit dès le début, parce que malgré sa grande éducation, culture, et aussi son entraînement de pharisien. Pharisien un peu défroqué, certes, et son entraînement évident à la rhétorique et à la discussion, il croit profondément que toute cette sagesse et toute cette intelligence n'est pas le meilleur médium par lequel Dieu s'adresse à nous. Pour que Dieu puisse s'adresser à tout le monde, il parle, on va dire, au cœur, ou au moyen de cette espèce de sixième sens que Jean Calvin, le réformateur, nommera le sensus divinitatis. Et je cite Calvin, qui dit dans l'institution chrétienne qu'il existe dans l'esprit humain et même par instinct naturel un certain sens de la divinité, sensus divinitatis, nous le tenons pour incontestable, puisque Dieu lui-même, pour empêcher tout homme de prétendre à l'ignorance, a doté tous les hommes d'une certaine idée de sa divinité. Ce n'est pas une doctrine que l'on apprend, d'abord à l'école, mais une doctrine dont chaque homme, entendez chaque être humain évidemment, dont chaque être humain, je traduis, est dès le ventre de sa mère le propre maître, une doctrine que la nature elle-même ne permet à aucun individu de forger. Voilà ce que dit Calvin. Il en appelle au sensus divinitatis. Alors, nous trouvons ici peut-être un lien logique avec la fin du texte, un texte qui a été considéré par certains commentateurs comme un simple empilement aléatoire commis par un rédacteur fatigué. À la fin du texte, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, et moi je vous donnerai le repos. » Or, il est probable que ceux qui choisissent les textes du jour ont choisi ce texte juste avant les vacances, mais je ne prêche pas là-dessus, c'est trop facile. Et Jésus dit aussi « Car mon joug est bon et ma charge légère. » En effet, il peut être léger d'en arriver à considérer qu'il n'est finalement pas nécessaire de s'exténuer d'intelligence pour recevoir Dieu, ou d'aller suivre des prétendus maîtres de sagesse qui distillent parcimonieusement leur savoir lacunaire dans l'unique but de gonfler leur audience. Et finalement, il peut être agréable et léger et reposant de considérer qu'il ne sera pas possible un jour d'atteindre le point satisfaisant et vraiment équilibré pour enfin dire oui et amen. Et que la conscience de la foi nécessitera toujours le courage de sauter dans un vide apparent. Même Kant, très rarement cité en prédication, mais très influenceur malgré tout. Kant, je vous rappelle, c'était un philosophe, et je le rappelle aussi, c'était un philosophe protestant, dit « J'ai dû donc dépasser le savoir pour lui substituer le croire. » Mais moi, à plus modeste échelle, j'ajouterai qu'une fois ceci assumé, à savoir que les sachants n'ont aucun privilège vis-à-vis de Dieu, ni aucune autorité sacrée pour en dire les vérités profondes, une fois assumé aussi qu'une certaine exultation, plutôt que d'infinie tergiversation, est conseillée dans ce domaine de la réception de Dieu, eh bien j'ajouterai qu'on doit désormais, comme l'ont fait les plus grands théologiens classiques, qu'on doit maintenant, à partir de là, penser la foi, et sans relâche, ne serait-ce que pour s'immuniser toujours davantage contre les pseudo-sages et tous ceux qui utilisent leur intelligence à des fins manipulatrices et commerciales. Amen.